Vous écoutez On lit pour vous.
La Ville de Québec se dote d'une première stratégie pour la biodiversité, un texte d'Alexandre Shields paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. La Ville de Québec compte augmenter la protection des milieux naturels sur son territoire en misant sur sa première stratégie pour le bien de la biodiversité. Selon les autorités municipales, ce plan de préservation constitue une étape importante en vue d'obtenir le statut de région de la biosphère de l'UNESCO. À l'horizon 2040, nous voulons faire de Québec un modèle d'harmonie entre l'humain et la nature, où le développement urbain s'inscrit dans une vision respectueuse des écosystèmes, a résumé lundi le maire Bruno Marchand en dévoilant sa stratégie présentée sous le thème « Connecter le vivant ». La conservation des milieux naturels est un pilier fondamental de l'aménagement du territoire, au même titre que le logement et les infrastructures, et doit être reconnu comme tel, a ajouté M. Marchand. Concrètement, la Ville dit vouloir protéger un total de 40% de son territoire en milieu naturel d'ici 15 ans, ce qui nécessitera d'ajouter 3000 hectares de milieux préservés, soit l'équivalent de 30 fois la superficie des plaines d'Abraham. Un tiers de cet effort de protection de la biodiversité et des milieux verts sera réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Avec cette cible environnementale et son plan pour les prochaines années, Québec estime qu'elle vient de franchir une étape importante en vue d'obtenir le statut de région de la biosphère de l'UNESCO, une reconnaissance internationale qui mettrait en valeur son équilibre entre le développement des communautés et la préservation de la biodiversité. Tournant historique. Pour le maire Bruno Marchand, cette stratégie municipale répond aussi à un engagement en faveur de la biodiversité pris lors de la COP15 de Montréal, où a été signé le premier accord planétaire en faveur de la protection du vivant en 2022. Je me suis engagé à en faire un pilier central de notre développement. L'adoption de cette toute première planification entièrement dédiée à la biodiversité témoigne de cette volonté, a-t-il fait valoir. Nous sommes à un tournant historique où chaque décision, chaque action peut avoir un impact profond sur l'avenir de notre planète, a-t-il ajouté. Le document dévoilé lundi par la Ville de Québec souligne par exemple que 45,8% de son territoire est toujours couvert de milieux naturels, humide, hydrique et boisé. Bien qu'il s'agisse d'un constat encourageant, il faut rappeler que cette proportion était de 52% il y a 9 ans, en 2016. Cela indique que les mesures visant à stopper les pertes de milieux naturels doivent être augmentées, précise le document. La stratégie municipale vise donc à accroître le taux de protection des différents milieux naturels, mais aussi à créer des corridors écologiques entre les grands noyaux de biodiversité. On souhaite également mobiliser davantage la population afin qu'elle participe aux efforts de protection. En milieu urbanisé, ajoute la ville, l'entretien des pelouses, les aménagements paysagers, les infrastructures végétalisées, l'agriculture urbaine et la foresterie urbaine sont au nombre des pratiques municipales pouvant contribuer à cet effort de préservation du vivant. La protection de la biodiversité est également un enjeu important en matière d'adaptation aux effets de la crise climatique, notamment pour faire face à l'augmentation des températures en milieu urbain et des épisodes de précipitation, rappelle Québec. Selon le groupe d'experts en adaptation au changement climatique qui conseille le gouvernement du Québec, l'adaptation climatique passe par une meilleure protection des milieux naturels. Une crise mondiale. La crise de la biodiversité continue de s'aggraver à l'échelle de la planète, au point où les scientifiques évoquent l'arrivée d'une sixième extinction massive du vivant, la première depuis celle qui a fait disparaître les dinosaures, il y a de cela plus de 65 millions d'années. Selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, Sur les quelques 8 millions d'espèces animales et végétales estimées sur la planète, 1 million d'entre elles seront menacées d'extinction. Cette disparition rapide est largement attribuable aux activités humaines, principalement la destruction et la fragmentation des milieux naturels par l'urbanisation et l'industrialisation, la surexploitation de certains organismes vivants, la pollution, les changements climatiques et l'introduction des espèces exotiques envahissantes, rappelle le document de la Ville de Québec. C'était « La Ville de Québec se dote d'une première stratégie pour la biodiversité », un texte d'Alexandre Shields paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. Le comité recommande d'assouplir le règlement sur les synagogues dans Outremont. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir. Outremont devrait adopter un règlement qui accorde plus de souplesse dans l'implantation de lieux de culte dans les quartiers résidentiels de l'arrondissement, tout en imposant un respect des critères favorisant le bon voisinage. C'est la recommandation avancée par la table de concertation de bon voisinage d'Outremont, mise en place en 2021 dans un rapport déposé au conseil d'arrondissement. La cohabitation entre les lieux de culte et les citoyens non assidiques entraîne des frictions depuis des années dans Outremont. À plusieurs occasions, les voisins de synagogues se sont plaints de nuisances liées à la circulation automobile, au va-et-vient fréquent, au bruit et à la malpropreté. Les synagogues sont au cœur de la vie des membres de la communauté hassidique, avait souligné en 2021 une étude réalisée par le chercheur Frédéric Dejean. Mais compte tenu de la réglementation actuelle et de la croissance démographique des communautés hassidiques, qui représentent 25% de la population d'Outremont, les lieux de culte sont devenus trop petits et en nombre insuffisant, souligne le rapport. Au cours des dernières années, la table de bon voisinage d'Outremont, composée de 8 membres, s'est penchée sur les enjeux de cohabitation dans Outremont et le quartier Myland. La réglementation d'Outremont n'est pas adaptée aux besoins des personnes hassidiques, constatent les auteurs du rapport. Mais toute réglementation doit préconiser le respect du voisinage, prennent-ils soin d'ajouter. Dans ce contexte, les auteurs proposent que l'arrondissement adopte un règlement à usage conditionnel qui permettrait l'implantation de lieux de culte dans des zones résidentielles tout en imposant des critères précis pour autoriser cet usage afin de s'assurer que ceux-ci ne causent pas de nuisances. Ainsi, une fois le règlement en vigueur, après avoir consulté le comité consultatif d'urbanisme, le conseil d'arrondissement serait appelé à se prononcer sur chaque demande en tenant compte de différents critères comme la nature et l'intensité des activités qui doivent s'y tenir, le respect du patrimoine bâti lors de travaux, une insonorisation suffisante, la nécessité de verdir, un horaire d'activité qui respecte la quiétude du voisinage, le respect du nombre de personnes autorisées et les mesures pour minimiser la circulation automobile. Une valeur ajoutée. Un tel règlement offrirait une plus grande flexibilité et répondrait aux besoins des diverses communautés, mais surtout aux communautés hassidiques et à ceux d'organismes du quartier, tout en s'assurant que le voisinage est respecté, soulignent les auteurs du rapport qui ajoutent que d'autres usages pourraient être pris en considération, comme l'implantation d'un organisme communautaire, un studio d'artistes, un dépanneur spécialisé ou un café, par exemple. Un règlement sur les usages conditionnels représenterait ainsi une valeur ajoutée pour l'ensemble de la population d'Outremont. Fait-on aussi valoir? Les auteurs du rapport proposent également que l'arrondissement mandate une ressource pour faire un suivi et un accompagnement auprès des responsables des lieux afin de s'assurer de l'application des règles de bon voisinage et des conditions d'usage. D'arrondissement, le maire d'Outremont, Laurent Desbois, a précisé que rien ne va se passer d'ici les prochaines élections au regard des recommandations émises dans le rapport. Ce sera au prochain conseil qui sera élu de déterminer la suite des choses. La proposition de la table de bon voisinage d'Outremont s'inspire du règlement sur les usages conditionnels adopté en 2023 par la ville de Côte-Saint-Luc, où la population juive est importante, aux prises avec des synagogues illégales. Selon les auteurs du rapport, cette formule est plus appropriée qu'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, tel que celui qu'a adopté l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Le règlement de cet arrondissement, mentionne-t-il, implique une démarche complexe qui peut entraîner un référendum pour chacun des projets. Les référendums tendent à polariser la population plutôt qu'à la rassembler, écrivent-ils. C'était « Un comité recommande d'assouplir le règlement sur les synagogues dans Outremont », un texte de Jeanne Corriveau paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir.
Le succès d'une vision communautaire. Un texte de Ronnie Bossicot, paru le 12 juillet 2025 dans La Liberté. Selon une étude du Rural Manitoba Economic Development Corporation, le parc industriel Riel à Sainte-Agathe est un modèle de développement économique rural à suivre. Selon ce que révèle une étude du Rural Manitoba Economic Development Corporation, RMED, dont les résultats ont été dévoilés en mai et présentés par le CDEM sur son site, le parc industriel Riel à Sainte-Agathe est un modèle de développement économique rural à suivre. Des acteurs comme l'Association des municipalités bilingues du Manitoba, AMBM, et le Conseil de développement des municipalités bilingues du Manitoba, CDEM, qui ont tous deux appuyé la construction du parc industriel Riel à Sainte-Agathe, se réjouissent de cette réussite d'un projet né d'une vision communautaire. 20 ans plus tard, ces acteurs mettent en avant des résultats probants en matière d'investissement, de création d'emplois et de réinvestissement dans les infrastructures locales. Ils pensent que le mieux serait d'établir des projets similaires dans d'autres municipalités rurales du Manitoba. La mise en œuvre de ce projet a été le résultat d'une volonté commune de la Corporation de développement communautaire, CDC, de Sainte-Agathe, de l'AMBM et du CDEM, à la suite des inondations qui ont frappé le sud de la province du Manitoba en 2017, précise Joël Lemoine, directeur de l'appui aux entreprises au CDEM, qui était présent dès le début du projet. Il explique qu'en 2000, tous ces acteurs locaux ont élaboré un plan visionnaire qui a conduit aux résultats obtenus aujourd'hui. C'était l'un des rêves de la population, Les résidents se sont réunis autour d'une table pendant plusieurs jours afin de développer cette vision. La CDC de Sainte-Agathe, qui comptait une vingtaine de membres, ainsi que les bénévoles, a mobilisé les moyens nécessaires et a acquis un terrain. Ils ont pu obtenir un financement dans le cadre du projet fédéral de diversification de l'économie de l'Ouest. Ils ont ensuite élaboré un plan en plusieurs phases, incluant la construction de bâtiments résidentiels, de parcs de jeux et d'un parc industriel. Des retombées positives pour la municipalité de Richott. Le parc industriel Sainte-Agathe, situé dans la municipalité rurale de Richott, est avant tout un projet communautaire dont l'établissement a permis de diversifier, dans une certaine mesure, l'économie de la zone. La région est passée de l'agriculture et de la manufacture à la transformation des produits. Joël Lemoine, qui fait office également de conseiller municipal à Richott, souligne que la municipalité est ensuite entrée en jeu pour mieux appuyer la CDC de Sainte-Agathe en construisant des infrastructures qui valorisent davantage la collectivité. En retour, grâce au développement du commerce, elle perçoit plus de taxes et d'impôts résultant de ses activités économiques. Quelles perspectives pour les autres municipalités? Le directeur général de l'AMBM, Justin Johnson, estime que le succès du parc industriel de Sainte-Agathe mérite d'être salué. Il s'agit avant tout d'un exemple de bonne pratique qui, selon lui, peut être répliqué dans d'autres communautés. Cette réalisation est le témoignage vivant du rôle que peut jouer une municipalité pour paver le chemin vers un développement économique local dynamique et continu, en tenant compte du modèle de la municipalité de Richott en termes d'aménagement du territoire, a-t-il fait remarquer. Les municipalités bilingues sont stratégiquement bien positionnées tout au long de ce corridor de transport et de commerce, essentiel à l'économie manitobaine. Le parc industriel de Sainte-Agathe se trouve sur l'autoroute 75, qui relie le Manitoba et le Canada au marché américain. Plusieurs autres municipalités bilingues sont également situées dans ce corridor stratégique de transport et de commerce. Les municipalités bilingues sont donc de véritables moteurs de développement économique local, sur lesquels nous pouvons compter tant au niveau provincial qu'au niveau national. À ce sujet, la MBM, à travers ses membres, est prête à passer à l'action, autant avec la province du Manitoba qu'avec le gouvernement fédéral. En dépit de son optimisme, Justin Johnson note que les municipalités rurales font face actuellement à des déficits majeurs en matière d'infrastructures. Il soutient que ces problèmes doivent être pris en compte dans les programmes de financement provinciaux et fédéraux pour que les communautés puissent bénéficier des outils leur permettant d'assurer leur prospérité à long terme au sein des municipalités. Le modèle de réussite du parc industriel Riel dans la municipalité de Richott semble être l'enjeu futur pour les autres membres de l'AMBM, qui en compte 16. En plus d'être des zones de protection de la francophonie, elles offrent également des services dans les deux langues officielles du Canada. C'était « Le succès d'une vision communautaire », un texte de Ronnie Bossico, paru le 12 juillet 2025 dans La Liberté.
Ouvrir les têtes avant d'ouvrir les corps. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse. Jocelyne Robert n'est plus sexologue. Le Devoir nous a appris lundi que des plaintes à l'Ordre professionnel des sexologues du Québec concernant certains propos controversés sur les questions trans ont entraîné une enquête du bureau du syndic, puis la démission de cette communicatrice bien connue qui s'estime bâillonnée par son ordre. Puisque le dossier est classé, On ne connaît pas l'ensemble des propos reprochés à Jocelyne Robert, ni les détails de l'entente confidentielle qui ont mené à ce dénouement. Je m'en tiens donc aux déclarations publiques de l'ex-sexologue. Au Devoir, Jocelyne Robert a précisé qu'elle n'avait rien contre le fait d'administrer des soins d'affirmation de genre à des mineurs, mais qu'il fallait prendre le temps de bien accompagner ces derniers afin de comprendre ce qui les pousse à changer d'identité de genre. Soyons assurés de bien ouvrir les têtes avant d'aller jouer dans les corps, a-t-elle résumé. Au sein de certaines chapelles idéologiques, il est effectivement controversé, voire choquant, d'affirmer une chose pareille. Mais l'approche prudente de Jocelyne Robert m'apparaît non seulement modérée, mais nécessaire. Soyons clairs. Le protocole de traitement de la dysphorie de genre adopté par les cliniciens de nombreux pays, dont le Canada, s'appuie sur un large consensus scientifique. C'est ce qu'on appelle les soins d'affirmation de genre. L'approche, qui peut impliquer l'administration de bloqueurs de puberté, d'hormones et ultimement une intervention chirurgicale, est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que par les associations médicales canadiennes et américaines. Mais le vent tourne. Et pas seulement aux États-Unis de Donald Trump. Au Royaume-Uni, en Suède, en Finlande et au Danemark, les agences de santé ont récemment limité les traitements offerts aux adolescents ou ne les ont autorisés que dans le cadre d'essais cliniques. C'est que, même si beaucoup de cliniciens affirment que ces traitements sont bénéfiques pour leurs jeunes patients, et même si des groupes de soutien aux personnes transgenres jurent que ces soins sauvent des vies, il manque cruellement de données solides pour étayer ces constats. Les preuves à l'appui de l'approche transaffirmative chez les adolescents sont remarquablement faibles, a conclu en 2024 une revue systématique de la littérature scientifique commandée par le gouvernement britannique. D'autres études en sont arrivées aux mêmes conclusions. Les preuves des bénéfices des soins d'affirmation de genre, tout comme leurs effets nocifs potentiels, sont encore minces. Ça ne veut pas dire qu'il faille réclamer la fin de ces traitements, mais on peut au moins prendre la peine d'écouter ceux qui posent des questions légitimes, surtout en ce qui concerne la rapidité avec laquelle certains cliniciens administrent des soins médicaux irréversibles à des enfants. Tout a commencé aux Pays-Bas. Le protocole était très encadré. Les jeunes patients étaient sélectionnés selon des critères stricts et devaient se soumettre à une évaluation, puis à un suivi psychologique de plusieurs mois. Diffusé en juin 2025, le très éclairant balado « The Protocol », fruit d'une enquête de 2 ans menée par 2 journalistes du New York Times, m'a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce traitement médical devenu politiquement explosif aux États-Unis, tout en ébranlant, je dois bien l'admettre, certaines de mes certitudes. Les 2 journalistes expliquent comment la prudente approche néerlandaise a été adaptée aux États-Unis avant que certains cliniciens américains ne s'en écartent. D'après ces derniers, les critères de sélection n'étaient pas nécessaires. Les enfants étaient les meilleurs juges de leur état. À eux, donc, de s'auto-diagnostiquer comme souffrant d'une dysphorie de genre. Mais il fallait faire vite, avant que leur corps ne se transforme de manière irrémédiable. Sinon, ils risquaient de mettre fin à leur jour. En toute bonne foi, les adeptes de cette école de pensée peuvent donc prescrire des bloqueurs de puberté ou des hormones à la hâte, sans prendre le temps de bien évaluer le patient. On m'a assuré que c'était très rare au Québec, mais ça existe. En 2024, un reportage de Radio-Canada a montré qu'une adolescente de 14 ans avait pu obtenir une ordonnance de testostérone au bout de 9 minutes de consultation dans une clinique privée de Montréal. Le reportage d'enquête posait une question. En matière de transition médicale de genre chez les mineurs, le Québec va-t-il trop vite? Pour toute réponse, l'Ombudsman de Radio-Canada a été inondé de plaintes. On ne voulait pas débattre, on préférait accuser la journaliste de s'être appuyée sur de la pseudo-science et d'avoir fait une trop large place à des jeunes qui regrettaient leur transition. Des vandales sont allés jusqu'à fracasser des vitres de l'immeuble de Radio-Canada, sous prétexte que la société d'État utilisait sa large plateforme pour amplifier des discours transphobes proches de ceux de l'extrême droite. D'autres médias crédibles, comme le New York Times, ont aussi été accusés de fomenter une panique morale lorsqu'ils ont osé faire leur boulot, c'est-à-dire poser des questions. Les militants voudraient réduire ces médias au silence en leur prêtant les pires intentions. Ils n'y arriveront pas. Mais un triste effet secondaire de ces pressions, c'est l'autocensure grandissante de ceux qui pourraient éclairer intelligemment la société sur cet enjeu en y apportant toutes les nuances nécessaires. Dans sa décision, l'Ombudsman de Radio-Canada a blanchi le reportage et noté que de nombreux experts avaient refusé d'être interviewés. Pour eux, cela aurait été un suicide professionnel. Certains experts se censurent parce qu'ils craignent non pas les pressions des militants trans, mais les conséquences que risque d'avoir leur prise de parole. Ils savent que s'ils émettent la moindre réserve, ce sera récupéré par d'autres militants à l'autre bout du spectre idéologique, ceux qui font une obsession à l'idée de limiter les droits des personnes transgenres. Pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, les scientifiques préfèrent se taire. Pourtant, ce n'est pas en étouffant le débat qu'on fera avancer la science. Jocelyne Robert pose des questions qui méritent d'être débattues, quitte à être réfuté. D'ici là, il n'est certainement pas farfelu ni transphobe d'appeler à la prudence en matière de transition médicale de genre chez des enfants dont l'état psychologique n'aurait pas été évalué en profondeur. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter ce que les jeunes patients ont à dire. Au contraire, ça veut dire de bien les écouter, pour être certain de comprendre ce qu'ils vivent et ce dont ils ont besoin. C'était « Ouvrir les têtes avant d'ouvrir les corps », un texte d'Isabelle Haché, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse.